votre grand journal du soir, c'est avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Si j'étais sur scène, comme je suis dans la vie, c'est-à-dire plutôt vivable, il n'y aurait personne dans la salle. Ah,
cette voix, vous l'avez sûrement reconnue, celle de Guy Bedos, une personnalité colérique peut-être, mais en tout cas très aimée des Français, le comédien et humoriste dont on vient d'apprendre la disparition à 85 ans. On en parle bien sûr dès le début de ce journal.
Déconfinement acte 2, les annonces, la liberté va enfin devenir la règle et l'interdiction, l'exception, a dit Édouard Philippe en présentant son plan tout à l'heure.
Plus de vert sur la carte de France, mais une région en orange, en métropole, l'Île-de-France. Et plusieurs annonces que l'on va détailler, bien sûr, notamment concernant la scolarité.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, la réouverture des parcs d'attractions avec Jean-Pierre Montanet. C'est pour bientôt, mais pas pour tout le monde en même temps.
Et puis demain dans le monde, nous conduira en Allemagne, car un peu avant nous, les Allemands vont pouvoir faire du tourisme à partir de ce week-end et on attend, paraît-il, beaucoup de monde dans les gares et sur les plages.
La tendance météo, Anissa.
Avec le retour des orages demain, cela concerne le sud. La journée sera très agitée, le temps lourd et orageux. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
On a donc appris il y a moins d'une heure la disparition de Guy Bedos à l'âge de 85 ans. Grand acteur polémiste, humoriste, il était malade depuis plusieurs années maintenant.
Oui, c'est son fils Nicolas qui a annoncé la nouvelle tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Avec ses mots, il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père, embrasse des proches et d'Abadi au paradis. Guy Bedos dont les replis, les répliques et les piques bien sûr resteront célèbres.
Oui, Bedos, l'humoriste engagé, il avait reçu le Molière du meilleur one-man show en 1990. Humoriste et comédien talentueux, il était connu en particulier pour tous ses rôles dans les films d'Yves Robert, Nous irons tous au paradis, Un éléphant, ça trompe énormément.
Et puis il était aussi une figure populaire de la France des années 70-80, personnalité de la gauche. Sur Europe 1 en 2011, au micro de Pierre de Villeneuve, il expliquait d'ailleurs les raisons de cet engagement.
Mon engagement à gauche est connu. En fait, c'est mon engagement contre tous les racismes. Vous savez, c'est pas. Il y a des choses dont je me mêle pas, mais parce que je comprends pas tout, et puis parce qu'il y a des choses qui me barbent, et puis que les gens qui en parlent me barbent. Mais qu'ils soient de gauche ou de droite. Mais voilà, je suis venu d'Algérie, et bien que né du bon côté, j'ai subi le racisme comme si c'était moi. J'étais entouré. J'avais en tout cas pour parents le premier gouvernement auquel j'ai résisté. Et qui était plutôt antisémite, plutôt raciste. Et donc voilà, ça vient de là.
L'engagement de Guy Bedos au micro européen de Pierre de Villeneuve.
Et voici un autre homme de gauche qui lui rend hommage ce soir, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui était très proche de Guy Bedos.
Guy Bedos, c'était extraordinaire, inventeur d'un humour qui lui était propre. Il était lui-même... Décapant, désopilant, détonnant. Il y avait en lui une âme très, très bonne, très belle, très, très généreuse. Il a été pour François Mitterrand un ami constant. Et à différents moments, lorsque les gens confrontaient à des situations difficiles, Guy Bedos répondait présent et apportait son amitié et son soutien indéfectible. En même temps, il ne se privait pas de critiques parce qu'il avait la langue vive et drue. Et quelquefois, il châtiait ceux qu'il aimait. Il le faisait toujours avec de l'amour et de la tendresse.
Jack Lang qui réagissait donc à la disparition de Guy Bedos. Il était avec Pauline Jacquot, Guy Bedos qui devrait être, selon son souhait, enterré dans le cimetière de Loumio en Corse, cette île qu'il aimait tant. Il la surnommait d'ailleurs mon Algérie de rechange à cause des odeurs de maquis qui lui rappelaient, paraît-il, son enfance.
Ouais, lui qui était né à Alger. Tout autre sujet à présent, on en vient à cette phase 2 du déconfinement qui a été présentée par Édouard Philippe ce soir.
Oui, et les retrouvailles s'annoncent émouvantes. Ça y est, à partir du 2 juin, c'est-à-dire à partir de mardi prochain, nous pourrons de nouveau voyager partout en France. Fini la limite des 100 km. Autant vous dire qu'il y en a qui vont être contents de se retrouver.
véritablement, c'est une libération. C'est un espace de liberté qui s'ouvre, c'est une respiration. Psychologiquement, c'est important. Franchement, ça devenait véritablement pesant, cette règle-là, puisque mes petites filles, je les ai pas vues depuis Noël. Nous devions nous revoir en famille en mars. Donc, il y a du temps à rattraper, surtout quand il s'agit de bébés. On les a pas vues grandir pendant ces 6 derniers mois. Et ça, ça a été difficile, oui. On va prendre date et puis se revoir tous ensemble. Il était temps. Il était temps
de ces retrouvailles, la joie de cette grand-mère qui va donc pouvoir, dès la semaine prochaine, retrouver ses petits-enfants, témoignages recueillis par Justin Morin.
La fin des 100 km, c'est donc l'une des annonces ce soir d'Edouard Philippe, qui a détaillé la phase 2 du déconfinement. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, avec des règles assouplies, des secteurs à l'arrêt qui vont enfin pouvoir reprendre. Jean-Rémy Baudeau, vous êtes en direct de Matignon, où vous avez suivi cette allocution d'Edouard Philippe et de ses ministres. Alors, rappelez-nous les principales mesures qui viennent d'être annoncées.
Alors déjà, Isabelle, je vais vous parler du Premier ministre qui a débuté plutôt souriant cette conférence de presse en rappelant que les choses vont mieux, il faut le noter. Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, a dit Edouard Philippe, tout en appelant les Français à rester vigilants. Par exemple, les rassemblements resteront limités à 10 personnes jusqu'au 21 juin. Il a ensuite présenté de nouvelles cartes. Pour faire simple, tout est vert sauf l'Île-de-France, Mayotte et Guyane qui restent orange. Dans ces départements, eh bien, il y a des restrictions qui resteront en vigueur. Par exemple, les cafés, les bars, les restaurants, ils vont rouvrir sur l'ensemble du pays, sauf dans ces zones oranges où seules les terrasses seront autorisées. Même schéma par exemple pour les piscines, les gymnases, les salles de sport. Réouverture partout sauf dans les zones oranges avec des restrictions jusqu'au 22 juin. Et alors que les musées vont pouvoir accueillir à nouveau du public avec un masque, le Premier ministre a précisé que la limite des 100 km était supprimée. Mardi prochain, on pourra donc librement se déplacer sur le territoire. Écoutez Edouard Philippe.
La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi.
Voilà, on retrouve donc un peu de liberté au niveau du territoire. Mais au-delà de la question sanitaire, Edouard Philippe s'est montré extrêmement alarmiste sur la question économique. Le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique, a dit le Premier ministre, qui promet par ailleurs que les entreprises qui ont abusé du chômage partiel seront contrôlées.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau, en direct de Matignon, donc pour Europe 1, vous qui avez suivi cette intervention du Premier ministre. Et parmi les annonces qui étaient très attendues, il y a celle notamment qui concerne nos enfants. Écoles et collèges vont pouvoir rouvrir partout dès le 2 juin, dès mardi prochain. Donc Arthur Embaché, vous êtes à Strasbourg pour Europe 1. Les collégiens du Grand Est sont logés désormais à la même enseigne que leurs petits copains du reste de la France.
Et la question pour les parents de collégiens ici dans une zone toute fraîchement verdie et qui a beaucoup souffert du virus ces derniers mois. La question, dois-je mettre mon ado au collège la semaine prochaine? Écoutez la réponse de la rectrice de l'Académie de Strasbourg, Elisabeth Laporte.
Moi, je leur dis qu'ils aient confiance, qu'ils sachent que dans les établissements scolaires, les enseignants seront attentifs à veiller sur leurs enfants et à leur inculquer les gestes barrières, les bonnes réactions pour se protéger et protéger les autres.
Le président du conseil départemental, Frédéric Bierry, en charge des collèges, se réjouit de la nouvelle couleur de son territoire, mais reste très prudent.
Il faut être très vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague. Et on constate aussi que parce qu'il y a eu un discours très optimiste, il y a eu un grand relâchement. On a vu ici à Strasbourg des situations de rassemblement qui pourraient provoquer des nouveaux clusters parce que la maladie continue à être présente. Sur les 8 derniers jours, il y a quand même une quarantaine de personnes qui sont rentrées à l'hôpital à Strasbourg. Il y a encore eu des décès, même s'ils sont moins nombreux.
Jusqu'à présent, dans la désormais ex-zone verte, un tiers des 6e, 5e étaient retournés au collège. On verra la semaine prochaine ce qu'il en sera à Strasbourg, Metz et à Mulhouse, évidemment.
Arthur Embaché en direct pour Europe 1 dans un collège de la région Grand Est, du côté des lycées. Les lycées vont pouvoir aussi rouvrir partout dans toutes les zones vertes, hein, donc sauf en Île-de-France, Guyane et Mayotte. Et il n'y aura pas d'oral du bac français, c'est le contrôle continu qui sera appliqué. On revient sur ce dossier juste après le journal, 19h20, le débat avec mes invités, Philippe Vincent du syndicat des proviseurs et Rodrigo Arenas de la FCPE.
Et ce qui va changer aussi dans nos vies dès la semaine prochaine, c'est qu'on va de nouveau pouvoir poser notre serviette sur la plage avec la crème solaire à portée de main, bien sûr. C'était interdit jusqu'à présent. Vous savez qu'il fallait absolument bouger.
Alors sans attendre, le maire de Guidel dans le Morbihan a pris un arrêté qui vient juste d'être validé par le préfet, arrêté qui autorise, Charles Guyard, le passage de la plage qu'on disait dynamique à la plage statique.
En effet, le déconfinement ici a pris un petit peu d'avance. Le maire l'avait constaté dès ce week-end, les écarts ont été très limités. À peine une dizaine de contraventions dressées. Partant de là, il est passé à la vitesse supérieure. Après le mode dynamique adopté le 14 mai, il a donc pris le principe statique pour deux de ces cinq plages. C'est-à-dire que depuis ce matin, l'élément indispensable sur le sable, c'est maintenant la serviette que l'on peut étaler pour s'allonger dessus. C'est ce que font plusieurs dizaines de personnes en ce moment même, notamment Maëlys et Roman qui profitent des derniers rayons de soleil de la journée.
On est revenu là aujourd'hui parce que on a appris que ça rouvrait et ça fait du bien. Avant on marchait au bord de l'eau et maintenant on peut de nouveau se réinstaller sur nos serviettes, ça fait du bien. C'est cool. Franchement oui, c'est une étape et franchement ça fait plaisir d'avoir le soleil et de retrouver ses amis.
L'arrêté a été publié ce matin dès 9h30, seule contrainte, les plages resteront fermées de 23h à 7h. Les communes voisines de l'Armor et Plohermel ont formulé la même demande auprès du préfet. Si celle-ci est validée, cela fera une douzaine de plages statiques en Morbihan dès ce week-end.
Le reportage de Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Isabelle Millet.
Et on se projette sur demain dans votre journal de 19h. Demain en France, la réouverture des parcs d'attractions. Ça y est, ça arrive, mais pas pour tout le monde en même temps.
Et puis demain dans le monde, les Allemands peuvent de nouveau partir en week-end. Un petit peu avant nous, ce sera un bon test d'ailleurs. On sera en direct avec Hélène Cole.
Europe 1.
19h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
Oui, dans ce journal de 19h, on se tourne vers l'actualité de demain. Demain en France, d'abord, bonsoir Jean-Pierre Montanet.
Bonsoir Sébastien.
Avec les parcs d'attractions qui vont pouvoir rouvrir dès le 2 juin, ils doivent d'abord se situer en zone verte pour ceux du 2 juin et pour la zone orange, ce ne sera pas avant le 22.
Oui, ça veut dire que les fans de Space Mountain devront encore patienter. Ça va laisser en revanche un peu de temps aux deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studio pour s'organiser. Pas sûr d'ailleurs qu'ils soient fin prêts pour le 22 juin, mais plutôt pour juillet. Il faut enclencher le processus de réouverture avec un protocole sanitaire. Des scénarios sont à l'étude pour assurer la distanciation. Un siège sur deux occupé ou un wagon sur deux à voir. Reste aussi à régler le casse-tête avec le personnel au chômage technique depuis le 1er avril. Pour les syndicats, ça va prendre des semaines pour apprendre aux salariés gestes barrières et sanitaires. La bonne nouvelle pour Mickey, c'est la réouverture des frontières le 15 juin en Europe, sachant que la clientèle des parcs est essentiellement étrangère. Le nombre de visiteurs ne devra pas dépasser 5000. Normalement, Sébastien, la fréquentation est 5 fois plus importante.
Et alors, en revanche, Jean-Pierre, visiblement, eux sont prêts. Top départ pour le Puy du Fou et pour le parc Astérix.
Oui, sur son site, le Puy du Fou annonce que dès le 11 juin, il sera en mesure d'accueillir ses premiers visiteurs. Course contre la montre pour préparer la logistique, faire valider par l'État les mesures sanitaires. Le spectacle nocturne et noces de feu sera bien programmé dès le 13 juin. Du côté des Gaulois, bonne pioche, le parc Astérix n'est qu'à 40 minutes de Paris, mais dans l'Oise, donc bien en zone verte. Feu vert pour le 2 juin, mais aucune date n'est encore avancée par le parc. Sur place, les attractions tournent à vide pour être opérationnelles le jour J. Le port du masque ne devrait être obligatoire que dans les attractions. Les équipes ont même testé les montagnes russes avec un masque pour s'assurer que ça ne gâchait pas les sensations. Partout
à
Tis.
Ça risque de s'envoler peut-être, mais merci Jean-Pierre Montanet. À demain.
Allez, demain dans le monde maintenant. Avec vous Hélène Cole, on part tout de suite à Berlin vous rejoindre en direct. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous.
Alors ce vendredi, demain donc, va être une journée test pour les trains et pour les gares allemandes. C'est en effet le premier week-end où les Allemands vont être autorisés à aller faire du tourisme.
Oui, on attend beaucoup de monde forcément sur les plages du Nord, les Berlinois qui vont prendre l'air, les Hambourgeois aussi. Il y aura aussi des grands mouvements vers le Sud, vers les Alpes et leurs promesses de randonnée, météo optimale et un vrai défi pour la Deutsche Bahn, la SNCF allemande. Ce week-end de Pentecôte va être une sorte de répétition générale avant l'été. Écoutez Bertolt Huber, le directeur client de la Deutsche Bahn.
Nous remarquons que la demande repart. Nous avons donc décidé de faire rouler des doubles trains sur les tronçons les plus demandés afin de proposer deux fois plus de places et que les voyageurs aient la possibilité de bien se répartir dans les wagons.
L'idée est que les voyageurs puissent éviter de porter leur masque pendant toute la durée du trajet et puis la compagnie a aussi doublé ses équipes de nettoyage évidemment.
Alors jusqu'à présent, Hélène, les Allemands, ils n'avaient pas le droit de se déplacer. Ça se passait comment? C'est une étape de plus en fait dans votre déconfinement?
Alors oui et non, en fait ici on a toujours eu une complète liberté de circulation dès lors que c'était pour aller travailler. En revanche, certaines régions ont bel et bien fermé complètement leurs accès pour les touristes avec des filtrages de police à l'entrée. C'était un peu comme si, imaginez en France, il y avait eu des contrôles frontaliers entre la Normandie et l'Île-de-France par exemple. Même les gens qui ont des résidences secondaires sur la côte ont été renvoyés chez eux pendant le confinement et ce sont donc ces derniers barrages qui viennent d'être levés. Et cet exemple nous rappelle une fois de plus comme l'Allemagne a géré cette crise de manière valeurs très différentes que la France. On n'a pas ici de conférence de presse du Premier ministre, comme on a pu l'avoir cet après-midi en France. Ce sont les 16 présidents des Länder qui ont déterminé le calendrier au cas par cas, en commençant le déconfinement bien avant la France, puisque c'était déjà il y a un mois et demi, mais en l'étalant beaucoup plus dans le temps, puisque ici en Allemagne, les regroupements de plus de 10 personnes restent proscrits jusqu'au 29 juin, donc une semaine après la France.
Effectivement, c'est différent de chez nous, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe chez vous aussi. Merci beaucoup Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 en direct de Berlin. Et puis, je vous signale qu'après le championnat allemand, justement, eh bien, c'est la Grande-Bretagne qui s'apprête à son tour à retrouver le foot avec le retour de la Première Ligue. Ce sera pour le 17 juin.
On était en Espagne hier et en Allemagne ce soir. On suit aussi le rythme auquel le déconfinement se passe chez nos voisins. Merci Isabelle Millet. Le rappel des titres évidemment tout à l'heure à 19h30. D'abord la météo avec Anissa et une fin de semaine qui va être plus agitée dans le sud.
Oui, et particulièrement dans le sud-est, Sébastien, avec demain matin sur les Alpes du Sud des averses orageuses. Dans l'après-midi, ces orages vont se décaler sur les Cévennes, les Pyrénées. En Corse aussi, demain le ciel sera couvert et le temps orageux. Le vent souffle sur les côtes varoises et sur la côte d'Azur. Bref, dans le sud-est, c'est très agité demain et partout ailleurs. C'est estival, les températures sont douces. Le matin, 8 à Reims, 10 à Montluçon, 11 à Lille, 13 à Dunkerque et Paris, 15 à Toulouse et 17 à Biarritz. Et partout ailleurs, 22 à 30 degrés sur l'ensemble du pays.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Sébastien, avec dans un instant l'interview de demain.
Il n'y aura pas de bac français, pas d'oral de bac français finalement, ce sera du contrôle continu. Mais les lycées vont bien rouvrir à partir de la semaine prochaine dans les zones vertes. On en parle avec Philippe Vincent, le secrétaire général du syndicat des proviseurs, et avec Rodrigo Arenas de la FCPE. Et puis après 19h30, on va parler de nos sportifs, prendre des nouvelles des sportifs de haut niveau. Richard Gasquet, par exemple, sera avec nous alors que le sport reprend peu à peu. Les salles de sport, les gymnases, les piscines vont commencer à rouvrir la semaine prochaine et les sportifs de haut niveau eux aussi reprennent l'entraînement. A tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs. Et on parle ce soir de l'avenir des collèges et des lycées après les annonces d'Edouard Philippe et de Jean-Michel Blanquer cet après-midi. Avec vous, Rodrigo Arenas de la FCPE. Mais d'abord, Philippe Vincent, le secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, proviseur d'un lycée d'Aix-en-Provence.
Bonsoir Philippe Vincent.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Merci de venir répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1. Les lycées vont pouvoir rouvrir, donc presque partout, quasiment dans toute la France, dès la semaine prochaine, sauf dans les zones oranges. Donc les zones oranges, c'est l'Île-de-France, Guyane et Mayotte. Est-ce que vous êtes prêts, vous les proviseurs, à rouvrir vos établissements ?
Oui, je pense que la décision était quand même relativement attendue. Il y a une forme de logique suite à la reprise des écoles primaires puis des collèges. Donc on pensait bien que la situation sanitaire s'améliorant d'une manière générale, il était assez évident pour nous que les lycées avaient toute chance de reprendre à partir du moment où ils étaient dans les zones vertes.
Ça veut dire que mardi, la quasi-totalité des lycées des zones vertes seront bien ouverts et accueilleront les élèves ?
Alors, ils seront ouverts, de toute façon, pour la plupart d'entre eux, ils étaient déjà ouverts, parce qu'en fait, ils accueillaient déjà des personnels, les personnels agents, par exemple, avaient souvent repris depuis au moins une semaine, voire 15 jours, les administratifs étaient au travail depuis plusieurs semaines, donc les établissements fonctionnaient, même si c'était sans élèves. Je ne suis pas certain que l'un mardi, tous les lycées soient prêts, parce que je dirais que certains avaient prévu des scénarios globaux et qu'il va falloir les affiner aux conditions spécifiques qui nous ont été communiquées ce soir. Mais oui, on va se mettre en phase durant toute la semaine prochaine pour accueillir dans, je dirais, des conditions les plus adaptées aux situations locales des groupes d'élèves.
Comment allez-vous organiser le nombre d'élèves ? Est-ce que quelques classes commenceront ? Est-ce que vous allez favoriser certains niveaux ? Et comment vous allez choisir les élèves qui commenceront à reprendre ?
Je pense qu'il va falloir qu'on ait des débats à l'interne des établissements, parce que si les euros de français avaient été maintenus, on aurait pu penser que le niveau première s'imposait. Là, je dirais que ce n'est plus le cas. Donc, il va falloir qu'on se mette d'accord avec nos équipes sur quels sont les publics prioritaires. D'une manière générale, et pour avoir un peu tâté le terrain, beaucoup de collègues considèrent que c'est le niveau terminal, parce qu'on a une frange d'élèves qui, pour l'instant, est en dessous de la barre des 10. C'est donc seraient susceptibles de passer les épreuves du deuxième groupe du bac, qui pourrait être une population cible intéressante en matière de soutien et d'accompagnement.
On sera donc en gros par demi-classe, des groupes de 15, hein, c'est la consigne qui a été donnée. Ce sont les élèves qui seront contactés pour savoir quel jour ils devront venir. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Ils doivent se poser la question.
Non, on va plutôt fonctionner à l'envers, c'est-à-dire qu'on va arrêter un cadre en essayant de pas trop bousculer les emplois du temps, parce que c'est pas en plein mois de juin qu'on va s'amuser à refaire des emplois du temps. Donc je pense qu'on va organiser effectivement plutôt des groupes par rotation. Alors certains collègues vont sans doute travailler par demi-journée, d'autres par journée, ça dépendra aussi s'ils ont ou pas de la demi-pension. Et puis on va informer très rapidement les familles et les élèves du cadre dans lequel on pourra les accueillir. Donc ça va forcément, oui, être des groupes réduits, parce que le protocole sanitaire s'imposant, un groupe à effectif réduit, une classe de lycée, c'est plutôt un tiers de la classe que la moitié de la classe.
Hein. D'accord. Donc, voilà. Masque obligatoire?
Oui, a priori, masque obligatoire, sauf pour la partie classe, où si on est en capacité de bien assurer les 4 mètres carrés, on pourrait s'en dispenser.
D'accord.
Et masque obligatoire pour les personnels.
Pour les personnels. Les enseignants, justement, quel retour vous avez? Ils sont prêts à reprendre? Ils ont envie? Ou certains sont réticents?
Bon, forcément, certains sont quelque peu réticents parce qu'il y a toujours une crainte et certains ont des contre-indications réelles. Hein, donc voilà, on aura sans doute une petite partie de la population enseignante qui ne pourra pas être disponible pour la reprise in situ. Bon, globalement, quand même, beaucoup d'entre eux souhaitent retrouver leurs élèves, souhaitent retrouver leur établissement, même s'ils se doutent bien que ça va être dans des conditions adaptées et qui ne seront pas celles qu'ils ont connues jusqu'au 16 mars. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi une envie de reprendre une activité qui est la leur et pour laquelle ils se sont engagés. Et tout le monde comprend bien qu'il va falloir le faire de manière adaptée.
Philippe Vincent, restez avec nous. On va accueillir Rodrigo Arenas, qui est le co-président de la FCPE, l'organisation de parents d'élèves. Bonsoir Rodrigo Arenas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. La réouverture de tous les lycées en zone verte, et pas seulement... Pour les collèges, ce sera partout. À partir de la semaine prochaine, ils seront tous ouverts, a dit le ministre de l'Éducation. Et pour les écoles primaires aussi, également, toutes les écoles de France seront ouvertes à partir de mardi prochain. Tout cela est souhaitable. Vous y êtes favorable?
Alors, c'est extrêmement souhaitable pour tous les élèves. Et quand je dis tous les élèves, c'est que, comme le dit Philippe Vincent, si tous les élèves reviennent en scolarisation, c'est-à-dire de lycée ou jusqu'à la maternelle, les places ne seront pas possibles, car les protocoles sanitaires ne permettent pas le retour de tous les enfants. C'est pour cela que, depuis maintenant plusieurs semaines, nous préconisons et nous militons pour que tous les lieux publics soient ouverts, des lieux publics qui permettent aux professionnels, dont c'est le métier que d'accueillir des jeunes publics, de pouvoir les prendre en charge, notamment aujourd'hui, où il y a une double peine pour les parents, c'est ceux qui resteront à la maison pour garder les enfants, et ça représente près de 80% des parents, notamment dans l'élémentaire, ne voient pas une baisse de revenus pour avoir finalement fait le travail de l'État, c'est-à-dire accueillir les enfants. Maintenant, Philippe Vincent le sait, nous avons eu l'occasion de nous en exprimer régulièrement. Ce qui compte, c'est la resociabilisation des élèves et ne pas rompre ce lien d'amour qui a été mis en place entre les enseignants, les chefs d'établissement, les directrices et directrices d'école avec les enfants, car c'est cela qui a prévalu dans la séquence. C'est-à-dire que cette relation humaine profonde entre nos enfants et leurs élèves, c'est ce qui a gagné dans la séquence. C'est-à-dire que l'école de la République en est sortie renforcée, et le partenariat, on va dire, entre les parents et les enseignants et aussi les chefs d'établissement, les directeurs d'école qui ont à charge de faire tourner les établissements, est sorti renforcé dans la séquence.
Rodrigo Arenas,
rappelez-vous, qui était plus compliqué avant le Covid.
Quel bilan vous faites de la rentrée qui a eu lieu depuis maintenant 3 semaines dans certaines écoles primaires? C'est finalement une réussite? Enfin, je dis certaines, c'est 80% des écoles qui ont rouvert, dit le ministre de l'Éducation. C'est un succès, ces 3 semaines de déconfinement?
Écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les parents qui reprennent le chemin de la sociabilisation, c'est-à-dire que la sociabilisation, c'est avec d'autres enfants que ses frères et sœurs et avec d'autres adultes que leurs parents. C'est-à-dire que l'école ne se réduit pas à lire, écrire, compter. Le lien avec les enseignants est central et que ce chemin de retour a été important. Évidemment, en respectant les gestes barrières, il ne s'agissait pas de succomber à la psychose une nouvelle fois. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de parents, ça a été extrêmement difficile, car les baisses de revenus vont arriver et que celles et ceux qui voulaient garder les enfants, car il n'y avait pas de place à l'école, vont voir leur revenu baisser, et ça a créé un émoi tellement fort que les chefs d'établissement et souvent des directeurs d'école sont sous la pression des parents qui ne comprennent pas pourquoi certains ont été choisis et pas les autres.
Dernier mot, Rodrigo Arenas, il nous reste peu de temps, c'est ce que vous réclamiez, je crois, l'abandon de l'oral de bac de français qui était perçu par certains comme une injustice. Il n'aura pas lieu, ce sera du contrôle continu pour vous, soulagement, le dossier est clos?
Bah écoutez, il est clos du point de vue administratif, c'est-à-dire de ne pas faire passer un oral qui aurait été entaché d'irrégularité, et aussi, vous savez, d'une certaine déshumanisation, car il n'y avait pas de raison que les élèves de première passent le bac français, l'oral, sans contrôle continu, alors que tous les autres étaient sous un autre régime. Donc cette nécessité d'égalité de traitement est fondamentale, il nous semble, dans l'école de la République, mais ça ne règle pas la question sur le long terme, car les apprentissages qui n'ont pas été faits cette année devront être récupérés. Mais il faudra pour cela se donner le temps long et ne pas mettre les enfants dans des cadences infernales et les enseignants aussi dans des cadences infernales pour rattraper le temps perdu plus rapidement Merci. Que ce qu'il est nécessaire pour pouvoir l'assimiler. Il faut maintenir ce lien d'amour, cette humanisation de l'école qui est centrale et que nous faisons confiance aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école pour en être les maîtres d'œuvre.
Merci beaucoup Rodrigo Arenasco, président de la FCPE, l'organisation des parents d'élèves. Je remercie également Philippe Vincent du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale qui était avec nous juste avant. Bonne soirée à tous les deux.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec la suite du programme.
Après l'école, on va parler de sport. Comment les sportifs de haut niveau ont-ils repris l'entraînement ces derniers jours? Plusieurs invités avec nous jusqu'à 20h. A tout de suite.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Sébastien Krebs.
Le rappel des titres, Isabelle Mille.
Et un grand humoriste et un grand comédien vient de nous quitter, Guy Bedos, avec 85 ans. C'est son fils qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux, parti quelques jours après son ami, le parolier Jean-Loup Dabadie, qui a notamment écrit pour lui le sketch Bonne fête Paulette. Humoriste et comédien talentueux, on a tous en tête ses rôles dans les films d'Yves Robert, notamment Nous irons tous au paradis ou encore Un éléphant, ça trompe énormément. Guy Bedos qui faisait vraiment partie de la vie des Français. La deuxième étape du déconfinement, présentée ce soir par Édouard Philippe avec de nouvelles libertés. À partir de mardi et une nouvelle carte de France, la région Île-de-France, Mayotte et la Guyane qui étaient en rouge passent en orange. Tout le reste du pays est désormais en vert. Pour tout le monde, plus de restrictions de circulation, fini les 100 km. Et parmi les décisions qui étaient très attendues, les restaurants situés en zone verte pourront rouvrir dès le 2 juin avec toutes les mesures de précaution bien entendu. Pour les autres, ils auront droit de servir mais uniquement en terrasse, notamment en région parisienne. Dès mardi, les lycées pourront rouvrir mais uniquement en zone verte alors que les écoles et les collèges pourront eux rouvrir dans tout le pays. Il n'y aura pas d'oral du bac de français. Le contrôle continu sera appliqué. Et puis l'actualité, c'est aussi le chômage à son plus haut niveau depuis 1996, date du début des statistiques, plus 22,6% au mois d'avril, 843 000 demandeurs d'emploi supplémentaires.
Merci Isabelle. À demain, 18h pour l'info. La météo, Anissa, on va entendre le tonnerre gronder demain.
Et oui, le temps devient orageux, ça y est, la pluie arrive. Alors elle est très attendue dans certaines régions, la pluie. Demain, les orages concernent le sud-est de la France, avec demain matin sur les Alpes du Sud, des averses orageuses, tout comme sur la Côte d'Azur. Et puis dans l'après-midi, ces orages vont s'étendre sur les Cévennes, sur les Pyrénées, avec une activité orageuse également sur la région Rhône-Alpes et la Corse. Le vent souffle sur les côtes varoises et la Côte d'Azur. C'est un temps donc plutôt mitigé, très agité dans le sud-est, partout ailleurs. C'est le temps estival qui se poursuit avec des températures toujours très douces, 22 à 30 degrés sur l'ensemble du pays. Demain, on aura une maximale à 31 degrés du côté de Mont-de-Marsan, de Mimizan ou encore Cahors. Et puis ce temps agité dans le sud-est, il va se poursuivre encore quelques jours. Votre grand journal du soir se poursuit, Sébastien Krebs. Et ce soir, on va parler sport avec vous et avec vos invités jusqu'à 20h. Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1 vient de nous rejoindre.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci d'être avec nous. Plusieurs invités vont être en ligne avec nous ce soir. On va retrouver tout à l'heure Richard Gasquet ou encore l'athlète Mélina Robert-Michon. On sera même sur un voilier avec le skipper Jérémy Bayou qui prépare le Vendée Globe. Comment les sportifs de haut niveau se réentraînent, se déconfinent pour préparer la suite et le retour potentiel des compétitions dans les mois qui viennent? C'est notre sujet ce soir qui va nous occuper jusqu'à 20h. D'abord, le sport pour nous au quotidien, Corinne, avec les annonces d'Edouard Philippe aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer dans les jours qui viennent? Les piscines, les salles de sport, ça y est.
Voilà, exactement. Alors, en zone verte, à partir du 2 juin, piscine, salle de sport, c'est ce qui effectivement a été gymnase, c'est ce qui a été annoncé par le Premier ministre. À partir du 22 juin, la zone orange pourra bénéficier des piscines, gymnases et salles de sport. Voilà, l'Île-de-France, autorisation d'ouverture pour les piscines, gymnases et salles de sport. Et reste interdit donc les sports collectifs et de contact. Et puis les rassemblements de plus de 10 personnes dans un espace public. C'est donc vous dire que les stades, de toute façon, ou les salles de basket ou autres qui font partie des sports collectifs, pour le moment, restent interdits.
Les grands événements sportifs, en tout cas ceux qui sont maintenus, le Tour de France fin août, ça c'est toujours d'actualité.
Toujours.
En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Roland Garros aussi.
Oui, toujours.
Avec ou sans public ?
Ben justement, ça dépendra aussi des conditions sanitaires du moment. C'est-à-dire que, évidemment, la direction de Roland Garros nous l'a dit, et Guy Forget nous l'a expliqué samedi matin en première, pour sa première prise de parole depuis le confinement. Hein. Le patron de Roland Garros expliquait qu'ils sont sur multiples hypothèses, mais que la privilégiée, c'est évidemment avec du public. Parce que c'est un spectacle et que franchement, ça résonnerait creux hein, dans le central avec son nouveau toit, s'il faut l'utiliser.
C'était censé être l'inauguration du nouveau central.
Exactement, ouais, exactement.
On verra ça, Roland Garros, fin septembre, a priori. Et justement, on est en ligne avec Richard Gasquet. Mmh. Bonsoir Richard Gasquet.
Bonsoir.
Bonsoir Richard.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous auriez dû être sur la terre de Roland Garros, là maintenant, cette semaine, sous le beau soleil qu'on a en ce moment. Ça a un côté rageant, j'imagine, de voir que tout ça n'a pas été possible.
Bah ouais, surtout que c'est vrai, comme vous dites, il y a un soleil incroyable pour 15 jours.
On n'avait pas besoin du toit cette année, du coup.
C'est pas habituel, le toit aurait pas servi, mais ouais, c'est sûr que voilà, c'est dur en tout cas de pas avoir ce tournoi cette année, mais on espère en tout cas pouvoir le faire en septembre. Je pense que ça a été la bonne décision de le reporter, donc on espère en tout cas tous que ce sera en septembre, et bien sûr avec du public.
Vous avez repris l'entraînement ?
Oui, j'ai repris l'entraînement. Je pense que tous les joueurs dans le monde entier ont repris l'entraînement. Pendant le confinement, il y en a quand même pas mal qui se sont aussi entraînés, donc on espère en tout cas être prêt le plus tôt possible pour dès qu'on saura quand est-ce qu'on va jouer. En tout cas, l'objectif, c'est d'être prêt, quoi.
Vous avez même, je crois, foulé la terre de Roland-Garros pour l'entraînement.
Voilà, je suis rentré un petit peu, j'étais rentré un petit peu à Paris quelques jours, juste oui, pour voir la fédération, le docteur, ce genre de choses. Mais oui, c'est vrai qu'on s'entraîne maintenant plutôt sérieusement, de semaine en semaine. Donc en tout cas, on attend déjà de savoir quand on jouera, quand la reprise aura lieu. Et après, on verra bien l'entraînement, comment ça va se passer, quoi.
Oui, parce que la fédération a gardé deux cours. Hein, parce que autour du Philippe Châtrier, il y a les travaux qui continue jusqu'au début septembre. Mais c'est vrai que deux cours ont été réservés pour les meilleurs Français, dont fait partie évidemment Richard Gasquet, pour pouvoir s'entraîner. Est-ce que justement, vous le disiez, ça fait bizarre, mais de fouler comme ça la terre battue à un moment où il y a des clameurs du public, mais finalement, il y a quelque chose de bien aussi de pouvoir s'entraîner encore sur la terre battue de Roland-Garros, même alors que le sport est interdit pour le moment.
Bah là, je suis plus à Roland Garros, mais j'y étais la semaine dernière, effectivement, au début du déconfinement, pour voir un peu le docteur et tout. Et c'est vrai que ça faisait très très bizarre de jouer dans ces conditions-là. Malgré ça, on est déjà très heureux de recommencer à jouer, à pouvoir s'entraîner.
On retrouve vite ces automatismes, Richard, ou ça demande du temps?
Bah, ça demande du temps, surtout plus l'âge avance, physiquement c'est de plus en plus difficile, donc c'est surtout au niveau physique, c'est compliqué d'arrêter deux mois de jouer, mais je pense que ça va aller, en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de temps avant de reprendre quand même la saison, donc il y aura beaucoup de semaines avant, à mon avis, de jouer. On va voir déjà l'US Open, ce qui se passe en août.
Oui, on ne sait toujours pas s'il aura bien lieu.
Ça devrait être annoncé par les organisateurs.
Voilà, dans une situation compliquée aux États-Unis.
Ouais.
Comment vous avez vécu ce confinement, Richard Gasquet ? On touche un peu à la raquette, on essaye de... Je ne sais pas, comment on s'entraîne en plein confinement ?
Bah, beaucoup de physique. C'est facile de courir, c'est facile de faire du vélo, beaucoup d'abdominaux, beaucoup de musculation, ce genre de choses. Et aussi, j'étais avec ma famille un petit peu beaucoup. Donc c'est sûr que j'ai pas l'habitude. Ça fait quand même 15-20 ans que je voyage énormément. Donc voilà, ça avait un petit côté spécial de se retrouver avec ma famille. Et ça a été quand même de bons moments. En tout cas, on espère.
C'est sûr que le circuit laisse pas beaucoup de temps à la vie de famille d'habitude.
Non, c'est compliqué. Donc voilà, il y a eu deux mois, on a pu se retrouver un petit peu. Maintenant, on espère bien sûr recommencer les tournois le plus vite possible, et surtout en espérant avec du public. C'est sûr que ça change beaucoup de choses.
Ouais, ça c'est pas de toute façon avant début août, hein, pour le moment. Richard, vous avez dû quand même respecter aussi des règles sanitaires, hein, pour reprendre l'entraînement. Vous avez été par exemple obligé de marquer vos balles?
Voilà, ouais, il faut marquer ses balles. Les entraîneurs, c'est avec des masques. On essaye de voilà, de bien respecter ce genre de choses. Il y a eu une charte qui a été à la fédération, donc on respecte scrupuleusement les règles pour qu'il n'y ait pas de problème, quoi.
Merci beaucoup Richard Gasquet d'avoir avec été plaisir. En direct avec nous ce soir. On vous souhaite un très bon retour à l'entraînement en attendant donc la suite et le programme pour le mois d'août et Roland Garros bien sûr. Le rendez-vous est pris en septembre. On y sera, Europe 1 radio officielle de Roland Garros. Vous restez avec nous dans quelques secondes, on part en mer quelque part au large de la Bretagne où nous attend Jérémy Bayou. Il est sur son bateau, il prépare le Vendée Globe. À tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs. Ce soir, Sébastien, on parle de sport jusqu'à 20h avec de grands champions qui sont avec nous ce soir et avec Corinne Boulou du service des sports.
Et on prend des nouvelles des sportifs de haut niveau qui ont repris l'entraînement depuis le début du déconfinement. Et on va partir en mer maintenant sur le navire de Jérémy Bayou qui est en ligne avec nous quelque part au large de la Bretagne. Bonsoir, vous êtes où Jérémy Bayou ce soir?
Ouais, bonsoir à tous. On est à une petite soixantaine de milles au sud de la Bretagne. On est parti là ce matin de très bonne heure et puis on va passer la nuit en mer sur Charal. La deuxième nuit en mer depuis qu'on a remis le bateau à l'eau.
Charal, donc c'est votre monocoque sur lequel vous préparez le prochain Vendée Globe hein, qui va démarrer puisqu'il est maintenu début novembre. Vous n'aviez pas mis un pied sur le bateau depuis 6 mois, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est vrai que on était parti sur un gros chantier d'optimisation sur le bateau parce qu'on a changé les foils, on a changé les traves, on a énormément travaillé sur le bateau en vue du Vendée Globe. Donc j'ai été privé de mon bateau pendant tout le début de l'année. Je suis allé m'amuser sur des plus petits supports, hein, du surf, du kitesurf, du motafoil, mais c'est vrai que pas sur mon bateau. Mmh. Et puis par-dessus, les 2 mois de confinement, c'est vrai que on a vraiment perdu le contact avec l'élément, avec la machine. Donc ça fait du bien de renaviguer, de retrouver les repères et ça va être important de redémarrer vite parce que la saison pour nous va commencer très rapidement.
Alors Corinne, on peut peut-être dire un mot de ce bateau qui est une sorte de bateau volant, c'est assez impressionnant.
Oui, maintenant les monocoques s'y mettent aussi un peu comme les multicoques et Jérémy justement a profité de son long hivernage, on va dire ça comme ça, pour fabriquer de nouveaux foils, ces appendices sur lesquels les bateaux se reposent pour se sustenter, pour s'élever au-dessus de l'eau et donc avoir le moins possible d'opposition. Hein, et ça répond à vos attentes là Jérémy, vous amuser, c'est pas le terme parce que c'est votre métier, mais en tout cas, vous prenez énormément de plaisir.
Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver le contact avec la machine, évidemment, parce que on l'a vu évoluer là pendant les 6 mois et on a vu des modifications s'opérer sous nos yeux. Mais enfin, de toucher ça, de tester, ça fait du bien. C'est beaucoup de plaisir parce que ça va vite. Mais tout simplement d'être en mer aussi, quoi. C'est vrai que ça manquait de se prendre des vagues dans la figure, de sentir les embruns, la vitesse du vent. Donc c'est énormément de plaisir. On a du beau temps en plus là en Bretagne, donc même la nuit il fait bon et donc ça fait énormément de bien.
Merci Jérémy. Juste, j'ajoute Sébastien, parce que il y aura une course, ce seront peut-être les navigateurs qui seront les premiers à entrer en compétition, c'est le 4 juillet et Jérémy Bayou sur son monocoque Charal participera à l'Arctique, à la Vendée Arctique Sable d'Olonne. Voilà, ça partira des Sables.
Première course début juillet. Et le 8 novembre, donc le rendez-vous est pris pour le départ du Vendée Globe. Merci beaucoup Jérémy Bayou. Dans les embruns, on les entendait, la liaison est un peu compliquée, mais on était très content de vous avoir. Merci
bonne
beaucoup.
Navigation.
Et bonne navigation, bon entraînement à vous. On va aller vers les pistes d'athlétisme à présent avec Mélina Robert-Michon. Bonsoir.
Bonsoir.
Médaille d'argent au lancer de disque au JO de Rio en 2016, vice-championne du monde en 2017. Vous prépariez évidemment le gros événement de l'été qui était les JO de Tokyo qui sont repoussés. Il va falloir patienter un an de plus. Ça a été dur d'apprendre l'annulation de toutes les compétitions que vous prépariez?
Oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avançait, tout s'annulait. Donc les Jeux, ça a été de la frustration parce que forcément, on se prépare pour ça. Mais en même temps, une sorte de soulagement parce que c'est vrai qu'au vu du confinement, on voyait que c'était quand même que ça allait être compliqué de se préparer. Et puis après, pareil, au vu de l'évolution du virus, on voyait mal comment réunir autant de personnes de pays complètement différents pendant autant de temps, quoi.
Vous avez pu reprendre l'entraînement ces derniers jours ?
Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir un stade qui a rouvert et des installations qui sont, que je peux utiliser. Puis c'est vrai qu'en lancer, on a quand même la chance d'être dehors et de pouvoir respecter assez facilement des distances et des normes de sécurité. Donc c'est vrai que voilà, pour le coup, j'ai bien choisi mon sport ou ma discipline.
Oui, parce que du coup, au moins, vous êtes seul. Il y a des précautions malgré tout à prendre. C'est plus contraignant.
Pour nous, ça ne change pas énormément de choses parce qu'on avait déjà chacun nos engins et on ne les partageait pas. Donc après, on essaye de prendre un peu plus de distance entre nous. Mais ça, voilà, c'est pas hyper contraignant comme dans d'autres disciplines.
Physiquement, après 2 mois d'arrêt, c'est plus dur. On le sent. On met du temps à se réacclimater à l'effort.
Alors, c'est plus le lancer, pour moi, la technique qui a été un peu plus dure parce que physiquement, je me suis entraînée pratiquement normalement chez moi. Donc, c'est pas physiquement, c'est plus le lancer en lui-même et puis physiquement sur le lancer que sur le physique, purement préparation physique.
Mélina Robert-Michon, vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on va accueillir Amandine Bouchard. Elle se réentraîne au judo. Tiens, on va voir comment elle fait parce que le judo avec la distanciation, ça doit pas être évident. À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Sébastien Krebs et les sportifs. Le sport sont à l'honneur ce soir jusqu'à 20h avec Corinne Boulot du service des sports et de nombreux champions qui
avec
sont vos invités.
Mélina Robert-Michon qui est toujours avec nous et qui est une lanceuse de disques, médaille d'argent au dernier JO de Rio en 2016. Et on va parler judo avec Amandine Bouchard que j'accueille. Bonsoir Amandine. Est-ce qu'Amandine Bouchard est avec nous ?
Oui, je suis là.
Voilà, bonsoir à vous, merci d'être avec nous, bienvenue. Vous êtes championne de France, médaillée de bronze au dernier mondiaux de judo et au championnat d'Europe. Vous êtes actuellement classée numéro 1 mondial dans la catégorie des moins de 52 kilos. Vous aussi, vous prépariez Tokyo au moment où le confinement est arrivé. Vous avez repris l'entraînement. Moi, je peux poser une question toute simple. Comment on fait du judo en ce moment, sachant qu'on doit tous rester 1m50 les uns des autres? C'est compliqué.
Alors, tout simplement, on n'en fait pas. Ah. Malheureusement, on va faire partie des derniers sports à reprendre. Parce que, bah, comme vous le savez, distanciation, etc. Nous, bah, voilà, le judo, c'est un sport de contact. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas autorisé à reprendre. Par contre, on a pu reprendre à l'INSEP tout ce qui est préparation physique, musculation, la course, mais tout en extérieur.
D'accord. Mais ça fait du bien de retrouver du monde, je suppose.
Oh là là, si vous saviez. Ouf, on a l'impression que bah on est déjà pendant le confinement, on était un peu coupé du monde. Et puis là, de retrouver les collègues, ça fait du bien. Ça donne comme un second souffle en fait. Mmh. Et ça permet aussi d'aider à attendre tout simplement notre reprise judo.
Le confinement a été un passage rude quand on a l'habitude de faire du sport beaucoup, se retrouver confiné à la maison avec la difficulté de faire de l'exercice.
Bah, notamment pour moi, ça a été vraiment compliqué parce que déjà j'étais toute seule, j'avais pas de jardin, j'avais pas de balcon. Et puis je suis un peu comme un lion en cage, j'ai tout le temps besoin de bouger, je suis un peu hyperactive. Et c'est vrai que déjà l'annonce du report des Jeux a été très très compliquée à digérer. Parce que là, on était vraiment à moins d'un an, on était en train de régler les derniers petits détails et là, ben voilà, on a appris un report des Jeux. Et c'est vrai que ça a été très compliqué et il y a eu des phases un peu dépression, on se demandait quand est-ce qu'on va reprendre, parce que c'est vrai qu'un coup, on nous disait on pouvait reprendre, un coup, on allait déconfiner, un coup, on allait prolonger. Et c'est vrai que ça a fait un peu l'ascenseur émotionnel et ça a été vraiment très compliqué à gérer. Mmh.
Corinne. Alors Mélina Robert-Michon, alors vous, le confinement, vous êtes une maman et il a fallu s'occuper de vos filles, notamment de votre aînée. Vous lui avez fait l'école pendant ce confinement? Comment ça s'est passé?
Oui, toujours, parce que normalement elle reprend au moins une partie la semaine prochaine. On attend justement un petit peu les infos là. Mais oui, ça m'a permis de réviser mon programme de CM1, ma grammaire, ma conjugaison. C'est vrai que ça a été... pas mal de chamboulements, mais c'est vrai que par contre, nous, on l'a plutôt bien vécu parce qu'on s'est dit, voilà, c'est l'occasion d'avoir du temps.
Ah, on a une ligne qui est en train de couper, Mélina Robert-Michon. On a du mal à vous entendre. Bon.
C'est bien.
Ah, ça y est. Oui, c'était mieux là où vous étiez.
D'accord, ouais, j'ai pas voulu. Je disais que ouais, c'est, on a profité en fait pour passer du temps ensemble. On s'était préparé à une année compliquée comme une année olympique. Et bah voilà, on a saisi l'opportunité. On s'est dit que c'était l'occasion de passer plus de temps ensemble. Et mais bon, là, je pense que chacun a envie de pouvoir reprendre un petit peu sa vie normale.
Plus de temps en famille et le retour au sport à présent. Amandine Buchat, vous avez de la visibilité pour la suite. On le disait, le judo pour l'instant impossible. Des vrais entraînements de judo, ce sera possible quand? Et des compétitions de judo, on peut imaginer ça dans les mois qui viennent?
Alors apparemment, d'après un communiqué de presse que nous avons eu, on va pouvoir reprendre le judo petit à petit au mois de juillet. Mais le nombre de personnes sera limité. On fera 8 ou 10 personnes maximum. Donc c'est déjà ça. Et puis retour à la compétition, c'est compliqué à dire parce que voilà, pour pouvoir faire les points pour les Jeux Olympiques, il faut faire des compétitions à l'étranger. Quel pays va ouvrir ses frontières? Quel pays ne va pas les ouvrir? Donc c'est vrai, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Normalement, septembre, octobre, les compétitions devraient reprendre, mais après, on verra, vu qu'il y a souvent des changements.
Corinne Boulot, le calendrier du sport cet été, là, il était très chargé à l'origine.
Ah oui.
Il va être très, très léger, là.
On va avoir des compétitions à partir du mois d'août, notamment en cyclisme, parce que les cyclistes vont devoir préparer quand même le Tour de France et avoir quelques courses dans les pattes. Pour le tennis, on attend effectivement, est-ce qu'il y aura tournée américaine ou pas, suivi de... Il y aura peut-être 2 tournois avant l'US Open, mais encore, c'est pas très sûr. Puis qui va pouvoir voyager? Parce que comme le disait Richard Gasquet et Amandine Buchat, il y a des déplacements, il y a beaucoup de déplacements. Le sport est international. Et donc, ça effectivement, ça va poser quelques problèmes, peut-être.
Le foot, fin août?
Alors le
qui
foot,
devrait reprendre.
Voilà, le foot en France, parce qu'il reprend déjà en Europe. Hein. Il a repris la Bundesliga en Allemagne, a repris le 16 mai. Là, on vient d'apprendre que ça y est, l'Italie, qui a quand même été l'un des pays les plus touchés, la Serie A a voté une reprise pour le 20 juin. Donc, et nous, en France,
un autre débat que le foot qui, effectivement, reprend partout, sauf... en France. Mais c'est un choix et c'est une décision qui a été prise. Merci beaucoup Corinne Boulot d'être venue ce soir. Merci à tous nos invités, Amandine Buchat, la judoka, et Mélina Robert-Michon, athlète au lancer de disque, qui était en direct avec nous. Merci beaucoup. 20h, évidemment, Émilie Mazoyer vous accompagne en musique tout au long de la soirée avec Jeanne Hadet, ce soir invitée pour sa tournée solo qui arrive au mois de septembre. Et le concert ce soir, les Guns N' Roses à Tokyo en 1992. Très bonne soirée en musique sur Europe 1 et on se retrouve à 18h pour écouter le monde changer.
C'était Sébastien Krebs sur Europe 1. Europe 1.